Il n'y avait pas de Doris, ni de Troy, ni de Harold Dunning parmi les abonnés au téléphone de Derry. J'ai essayé Ellen Dunning en dernier ressort sans en attendre grand-chose. Même si Ellen habitait encore la ville, elle avait probablement un nom d'épouse. Mais quelquefois, les coups tirés à l'aveuglette atteignent leur but. Lee Oswald en étant un exemple particulièrement malencontreux. J'ai été tellement pris de court quand la voix de robot téléphonique a débité un numéro que je n'avais même pas préparé de quoi le noter. Au lieu de rappeler les renseignements, j'ai appuyé sur la touche 1 pour être mis en contact avec le numéro demandé. Si j'avais pris le temps de réfléchir, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Quelquefois, on n'a pas envie de savoir, n'est-ce pas? Quelquefois, on a peur de savoir. On y est presque et on fait bêtement demi-tour. Mais cette fois-ci, je me suis courageusement accroché au combiné et j'ai écouté, tandis que là-bas, à Derry, un téléphone sonnait. Une fois. Deux fois. Trois fois. Le répondeur se déclencherait probablement après la prochaine sonnerie, mais j'avais décidé de ne pas laisser de message. Je ne savais absolument pas quoi dire. Mais au beau milieu de la quatrième sonnerie, une femme répondit.
« Allô ?»«
Ellen Dunning ?»«
Eh bien, j'imagine que ça dépend. À qui ai-je l'honneur ?»
Elle avait le ton amusé mais calme. Une voix de fumeuse rauque et teintée de sous-entendu. Si je n'avais pas été informé, j'aurais imaginé une femme d'une trentaine d'années plutôt que proche de la soixantaine. C'est quelqu'un dont la voix est l'outil de travail, ai-je pensé. Chanteuse, actrice de cinéma ou comédienne de théâtre, après tout, pourquoi pas? Mais aucune ne me semblait à sa place à Derry. George Amberson à l'appareil. J'ai connu votre frère Harry il y a longtemps. Je suis de retour dans le Maine, alors voilà, je pensais essayer de reprendre contact avec lui.
Harry?
Elle avait l'air surprise.
Oh mon Dieu! Vous l'avez connu à l'armée?
Aïe! Sans tergiverser, j'ai décidé que ça ne pouvait pas être ça, mon histoire. Non, trop d'embûches potentielles. Non, c'était à Derry quand nous étions gosses. Je fus frappé par l'inspiration. On jouait ensemble au centre aéré, toujours dans la même équipe. On a beaucoup traîné ensemble.
Eh bien, je suis navré de vous l'apprendre, monsieur Amberson. Mais Harry est mort.
L'espace d'un instant, j'en suis resté abasourdi. Sauf qu'au téléphone, ça ne passe pas vraiment, si? Puis je suis parvenu à articuler. Seigneur, oh, je suis vraiment désolé.
Oh, cela fait bien longtemps, c'était au Vietnam, pendant l'offensive du Tet.
Je me suis assis. J'avais comme une envie de vomir. Je ne l'avais sauvé d'une boiterie et d'un léger déficit mental que pour mieux raccourcir sa vie d'une quarantaine d'années. Fortiche! L'opération a pleinement réussi, mais le patient est mort. En attendant, le spectacle devait continuer. Et qu'en est-il de Troy? Et vous-même, comment allez-vous? Vous n'étiez qu'une petite fille avec un vélo à roulettes à l'époque, et vous chantiez! Vous chantiez tout le temps. J'ai tenté un faible rire. Oh bon Dieu! Oh, vous nous rendiez dingues!
Ah, la seule chansonnette que je pousse maintenant, c'est les soirs de karaoké au Benigan's Pub. Mais je ne me suis jamais lassé de baragouiner. Je suis animatrice sur WKIT-FM à Bangor.
Je vois. Et Troy?
Ah, il a la belle vie à Palm Springs. C'est le vernis de la famille. Il s'est fait un max de fric dans l'informatique. Il a démarré de rien dans les années 70. Il déjeune avec Steve Jobs et consort.
Elle a éclaté de rire. Un rire sensationnel. Je me suis dit que les trois quarts des gens, dans l'est du Maine en tout cas, allumaient leur radio juste pour entendre ce rire. Mais quand elle a repris la parole, Sa voix était basse et toute sa gaieté s'était envolée. Le jour et la nuit. Juste comme ça, le temps d'un claquement de doigts.
Sérieusement, qui êtes-vous, monsieur Humberson?
Je vous demande pardon?
J'anime des émissions de radio. À vous l'antenne, le week-end. Petites annonces, le samedi. J'ai un motoculteur, Ellen, presque flambant neuf. Je prendrai la meilleure offre à partir de $50. Ce genre de truc. Le dimanche, on parle politique. Les gens appellent pour se plaindre de Rush Limbaugh ou dire pourquoi Glenn Beck devrait se présenter aux élections. Les voix n'ont pas de secret pour moi. Si vous aviez vraiment été ami avec Harry à l'époque du centre aéré, vous auriez environ 60 ans. Or, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas l'air d'en avoir plus de 35.
Bing. En plein dans le mille. Les gens me disent souvent qu'à la voix, je fais bien plus jeune. Je parie qu'ils vous disent la même chose, Alan.
Bien joué.
A-t-elle répliqué sèchement. Et tout d'un coup, elle a vraiment fait son âge.
Ça m'a pris des années pour mettre ce rayon de soleil dans ma voix. Et vous?
Je ne savais pas quoi répondre. Alors je me suis tue.
Et puis, personne ne prend son téléphone pour savoir ce qu'est devenu un vieux copain de l'école primaire. Personne. Et sûrement pas 50 ans plus tard.
Je ferais mieux de raccrocher, j'ai pensé. J'avais obtenu ce que je souhaitais, et plus encore. Oui, j'allais raccrocher. Mais le téléphone était comme collé à mon oreille. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu le lâcher, même si j'avais vu des flammes dévorer les rideaux de mon salon. Quand elle parla à nouveau, il y avait de l'émotion dans sa voix.
C'était vous?
Je ne vois pas du tout.
Il y avait quelqu'un d'autre, ce soir-là. Harry l'a vu, et moi aussi. Est-ce que c'était vous?
Quel soir? Sauf que ça a plutôt sonné... Qu'est-ce-soir? Mes lèvres étaient totalement engourdies, comme si on m'avait plaqué un masque sur le visage. Un masque doublé de neige.
Harry disait que c'était son ange gardien. Et je pense que c'était vous. Alors où étiez-vous?
C'était elle qui avait la voix pâteuse maintenant, car elle s'était mise à pleurer. « Dame, Ellen, vous n'êtes pas... »
C'est moi qui l'ai emmené à l'aéroport quand il est parti pour le Vietnam. Je lui ai dit de faire gaffe à ses fesses. Il m'a dit « T'inquiète, sœurette, j'ai mon ange gardien pour prendre soin de moi, tu te rappelles ?» Alors où étiez-vous, monsieur l'ange, le 6 février 1968, hein? Où étiez-vous quand mon frère est mort à Kaysan? T'étais où, hein, fils de pute?
Puis elle a dit autre chose que je n'ai pas compris. Elle pleurait très fort à ce moment-là. J'ai raccroché. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis assis dans la baignoire, j'ai tiré le rideau et j'ai mis ma tête entre mes genoux. Je regardais le tapis antidérapant, celui avec les pâquerettes jaunes. Et là, j'ai hurlé. Une fois. Deux fois. Trois fois. Mais vous voulez savoir le pire? Je me suis pas contenté de regretter que Hal m'ait parlé de son foutu terrier. Non. Je suis allé plus loin que ça. J'ai souhaité sa mort. J'ai eu un mauvais pressentiment en arrivant chez lui et en découvrant la maison plongée dans l'obscurité. Mon malaise s'est accentué quand j'ai essayé d'ouvrir la porte et qu'elle n'a pas résisté. Hal? Pas de réponse. J'ai allumé la lumière. La pièce principale avait la propreté aseptisée d'un endroit que l'on nettoie régulièrement mais qui n'est plus vraiment habité. Les murs étaient couverts de photos encadrées. Sur la plupart figuraient des gens que je ne connaissais pas, probablement des proches de Hal. Mais j'ai reconnu le couple dans le cadre suspendu au-dessus du canapé, John et Jacqueline Kennedy. Ils étaient au bord de la mer, sans doute à Yannisport, et se tenaient enlacés. Il y avait un parfum de Glade dans l'air, qui ne parvenait pas à masquer l'odeur de chambre de malade imprégnant toute la maison. Quelque part, en sourdine, les Temptations chantaient « My Girl ».« Sunshine on a cloudy day » et tout ça. « Hal ? Tu es là ?» Où pouvait-il être ? Au Studio 9, à Portland, à danser sur un air disco en essayant de lever des minettes ? Mais je savais. J'avais fait un vœu. Et parfois les vœux sont exaucés. À tâtons, j'ai cherché l'interrupteur de la cuisine, je l'ai trouvé, et j'ai inondé la pièce d'une lumière fluorescente si puissante qu'un chirurgien aurait pu opérer sur le plan de travail. Sur la table, il y avait une boîte à pilules, le genre prévu pour ranger une semaine de traitement. La plupart de ces boîtes sont assez petites pour tenir dans une poche ou un sac à main, mais celle-ci était presque aussi grande qu'une encyclopédie. À côté, un mot griffonné sur un post-it. « Si vous oubliez vos comprimés de 20 heures, je vous tue !» Doris. « My Girl » se termina et « Just My Imagination » enchaîna. J'ai suivi la musique qui m'a mené à la chambre fétide. Hal était couché dans son lit. Il avait l'air relativement paisible. À la fin, une unique larme avait coulé du coin externe de ses yeux fermés. Leur sillon, encore humide, luisait. Le lecteur CD multidisque était posé sur la table de nuit, à sa gauche. Il y avait aussi un autre mot, avec un flacon de cachet posé dessus. Il n'aurait pas fait long feu comme presse-papier, même avec un peu de courant d'air, car il était vide. J'ai lu l'étiquette. Oxycontin, 20 mg. J'ai ramassé le mot. Désolé, copain. J'ai pas pu attendre. Douleur trop forte. Tu as la clé du resto et tu sais quoi faire. Mais ne t'imagine pas que tu peux t'accorder un coup d'essai. Trop de choses peuvent t'arriver. Fais bien du premier coup. Peut-être que tu m'en veux à mort de t'avoir embarqué là-dedans. Moi, à ta place, je m'en voudrais. Mais ne recule pas. Non, je t'en prie. La boîte en fer est sous le lit. Il y a encore dans les 500 dollars d'économie dedans. À toi de voir, copain. Doris me trouvera demain matin et dans les 2 heures qui suivront, le proprio posera un cadenas sur la porte du resto. Donc c'est ce soir ou jamais. Sauve-le, d'accord ? Sauf Kennedy, et tout va changer. Je t'en prie. Hal. Salaud, j'ai pensé. Tu savais que j'hésitais. Et voilà comment t'as décidé de me convaincre, pas vrai ? Bien sûr que j'hésitais. Mais hésiter n'est pas renoncer. S'il s'était mis dans l'idée que je risquais de reculer, il s'était trompé. Arrêtez Oswald. Absolument. Mais à cet instant, Oswald passait vraiment au second plan. Il faisait partie d'un futur brumeux. Drôle de façon de penser à 1963, mais complètement exact. Pour le moment, c'était à la famille Dunning que je pensais. Arthur, alias Touga, pouvait encore être sauvé. Harry aussi. Kennedy aurait pu changer d'avis, avait dit Hal. Il faisait allusion au Vietnam. Et même si Kennedy ne changeait pas d'avis et ne se retirait pas, est-ce que Harry se trouverait exactement au même endroit, au même moment, le 6 février 1968 ? Peu probable. D'accord, j'ai dit. D'accord. Je me suis penché sur Al et j'ai posé un baiser d'adieu sur sa joue. J'ai senti le goût légèrement salé de sa dernière larme. Dors bien, mon pote. Rentré chez moi, j'ai fait l'inventaire de ma sacoche Lord Buxton et de mon portefeuille en cuir d'autruche. J'avais les notes exhaustives de Hall sur les faits et gestes d'Oswald après sa démobilisation des Marines le 11 septembre 1959. Toutes mes pièces d'identité y étaient. Et ma situation financière était bien meilleure que ce que j'avais imaginé. Avec les économies supplémentaires de Hall et ce que je possédais déjà, le total dépassait encore les 5 000 $. J'avais de la viande hachée au frigo. J'en ai fait cuire un peu et les donné à Elmore. Je les caressais pendant qu'il mangeait. « Si je ne reviens pas, va chez les Ritter, » je lui ai dit. « Ils prendront soin de toi. » Bien sûr, Elmore ne m'écoutait pas, mais je savais que c'était ce qu'il ferait si je ne rentrais pas le nourrir. Les chats sont des survivants. J'ai ramassé ma sacoche, me suis dirigé vers la porte, et là, j'ai dû réprimer une brève mais puissante envie de courir dans ma chambre, me cacher sous les draps. Mon chat et ma maison seraient-ils seulement là quand je reviendrai, si j'arrivais à réussir mon coup? Et quand bien même? Serait-il encore à moi? Pas moyen de le savoir. Vous voulez que je vous dise un truc drôle? Même les gens capables de vivre dans le passé n'ont aucune idée de ce que l'avenir leur réserve. « Hé, Ozzy !» j'ai dit à mi-voix. « J'arrive, enfoiré !» J'ai fermé ma porte et je suis parti. C'était bizarre d'être dans le resto de Hall sans Hall, parce qu'on aurait dit qu'il était toujours là, son fantôme, je veux dire. Les visages sur son mur des célébrités semblaient me fixer, me demandant ce que je foutais là, me disant que j'étais pas à ma place et m'exhortant à m'occuper de mes affaires plutôt que de risquer d'enrayer la mécanique de l'univers. Il y avait quelque chose de particulièrement dérangeant dans la photo de Hal et Mike Michaud accrochée à la place de celle de Harry et moi. Je suis entré dans la réserve et j'ai commencé à avancer à petits pas glissés, tâtant le sol du bout des pieds.
« Fais comme si tu cherchais la première marche d'un escalier dans l'obscurité, » m'avait dit Hal. « Ferme les yeux, copain. C'est plus facile. »
C'est ce que j'ai fait. Deux marches plus bas, mes oreilles se sont débouchées avec ce petit pop caractéristique à l'intérieur de mon crâne. J'ai senti la chaleur sur ma peau. Le soleil brillait sous mes paupières fermées. J'entendais le « tchak-wouf, tchak-wouf » des métiers à tisser. 9 septembre 1958, 2 minutes avant midi. Touga Dunning était encore en vie et le bras de Mrs. Dunning n'avait pas encore été brisé. Pas très loin d'ici, chez Titus Chevron, m'attendait une Ford Sunliner rouge du tonnerre. Mais d'abord, il fallait en passer par ex-carton jaune. Cette fois, il aurait droit au dollar qu'il réclamait, car j'avais oublié de mettre une pièce de 50 cents dans ma poche. Je suis passé sous la chaîne, puis je me suis arrêté, le temps de mettre un billet de 1 dollar dans la poche avant droite de mon pantalon. Il y est resté. Car lorsque j'ai contourné le séchoir, carton jaune gisait sur le sol en béton, les yeux ouverts, une mare de sang s'élargissant sous sa tête. Sa gorge était tranchée d'une oreille à l'autre. Dans une main, il tenait le tesson de bouteille verte dont il s'était servi. Dans l'autre, son carton. Celui censé avoir un rapport avec la promo du jour, 2 pour le prix d'1, au front vert. Le carton, qui naguère avait été jaune, puis orange, était maintenant noir comme la mort.